France Culture, il est 18h. Le journal, Antoine Maret. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Donald Trump accuse l'Iran après la double attaque hier de pétroliers en mer d'Oman. Le président américain s'appuie sur une vidéo qui ne fait pas l'unanimité. Des sources russes ont tenté d'influencer les élections européennes à coups de fake news. Ce sont les conclusions d'un rapport présenté aujourd'hui par la Commission. Ce rapport relativise toutefois l'ampleur et la portée de ces infox. Dans l'actualité française, 70 millions d'euros pour éteindre l'incendie aux urgences. Depuis 3 mois, les services sont en grève pour cause de burn-out général. Pas de problème de santé grave avec la nouvelle formule du Levothyrox. C'est la conclusion de l'Agence nationale du médicament. Et pourtant, des milliers de patients se sont plaints d'effets secondaires. Puis à la fin de cette édition, comme chaque vendredi, l'enquête de la cellule Investigation de Radio France. Cette semaine, nous allons vous révéler de quelle façon Pôle emploi minimise le nombre de chômeurs suivis par ses agents. Que se passe-t-il dans le détroit d'Ormuz? Question posée après les attaques hier de 2 pétroliers. Réponse de Donald Trump tout à l'heure sur sa chaîne préférée, Fox News. Pour le président américain, aucun doute, c'est l'Iran qui est responsable de ces attaques. Donald Trump appuie ses dires sur une vidéo publiée par le Pentagone. À Washington, la correspondance de Gregory Phillips.
Donald Trump a 73 ans aujourd'hui. Alors pour cet anniversaire, son émission favorite Fox and Friends l'appelle au téléphone à 8h du matin. La situation dans le golfe Persique est évidemment l'un des premiers sujets abordés et le président américain répète les accusations déjà formulées hier par son secrétaire d'État Pompeo à l'égard de Téhéran. Eh bien, l'Iran a fait ça. On le sait parce qu'on voit le pétrolier avec dessus une mine qui n'a pas explosé. Et c'est signé par l'Iran. On voit aussi des marins en pleine nuit tenter de décrocher cette mine de la coque. Et ils la récupèrent. Tout le monde l'a vu. Je pense que les Iraniens ne voulaient pas laisser de preuves derrière eux. Et ils ne savaient sans doute pas qu'on dispose de moyens pour observer tout ceci très bien, même dans l'obscurité. Nous avons ces images que vous avez diffusées d'ailleurs. C'est sûr qu'ils sont derrière tout cela. Donc on verra bien ce qui se passe, mais les Iraniens ne vont pas fermer le détroit d'Ormuz. Le détroit ne va pas être fermé longtemps, et ils le savent très bien. Donald Trump ajoute que depuis qu'il est à la Maison-Blanche, le régime iranien est en grande difficulté, soumis aux sanctions. Nous sommes prêts à discuter avec eux, conclut le président américain, mais nous ne sommes pas pressés.
Et sans surprise, 2 versions s'opposent, celle des États-Unis que l'on vient d'entendre, et celle de l'Iran qui accuse Washington de maquillage et de sabotage diplomatique. Pour Clément Terme, spécialiste du Moyen-Orient et de l'Iran à l'Institut international d'études stratégiques de Londres, il s'agit là d'une guerre de propagande que les États-Unis ne sont pas sûrs de gagner.
Le problème avec les déclarations américaines, c'est qu'elles s'inscrivent dans une logique politique et que l'État américain a développé une analyse sur l'Iran qui est très idéologique. La République islamique d'Iran se présente comme une victime de manipulation de l'information américaine, en s'appuyant notamment sur l'exemple de la guerre d'Irak de 2003, avec les fameuses preuves de Colin Powell présentées au Conseil de sécurité. Donc on peut vraiment se demander si l'Iran n'est pas en train de gagner cette guerre de l'information en raison des précédents américains. Donc même si l'Iran ou certaines factions en Iran pourraient être tentées de réagir à l'embargo pétrolier américain, à l'escalade américaine face à la République islamique d'Iran, la crédibilité des États-Unis est très amoindrie par le passé de la guerre d'Irak.
Clément Terme au micro de Franck Mathevon. Des sources russes ont bien tenté de peser sur les élections européennes à coup de fake news. Telles sont les conclusions d'un rapport présenté aujourd'hui par la Commission. Pas de Big Bang de la désinformation, pas de scandale international non plus, mais tout de même une activité de désinformation continue et soutenue venant de la Russie. À Bruxelles, la correspondance de Pierre Benazet.
L'incendie de Notre-Dame est dû à des réfugiés. George Soros orchestre la chute du chancelier Sébastien Kurz. 1 million de Lettons boycottent les élections européennes. Les services secrets allemands et espagnols s'attaquent à l'extrême droite autrichienne. On pourrait continuer encore longtemps. Ce n'est qu'un minuscule florilège des infox que l'Union européenne a relevé durant les mois précédant les élections. Il y en a pour 574 pages sur le site EUVS Disinfo. Les Européens craignaient que se reproduisent les mêmes tentatives d'influence et de propagande que lors de la campagne des dernières présidentielles aux États-Unis. Elle estime que le nombre de cas de désinformation liés à des acteurs malveillants localisés en Russie a doublé depuis janvier. Même s'il y a eu une activité continue et soutenue de fausses nouvelles de sources russes, la Commission européenne se félicite de ce que la surveillance renforcée a permis de contrecarrer de nombreuses infox et d'empêcher un big bang de la désinformation. Mais de toute façon, si l'on en croit les fameux acteurs malveillants, les commissaires européens se sont fatigués pour rien puisque les États-Unis dictent la politique de l'Union européenne ou bien, encore mieux, le Parlement européen est un antre de la corruption, voter ne sert à rien.
Au Sénégal, l'opposition dans la rue en ce moment pour dénoncer l'opacité, je cite, des contrats pétroliers du pays. Une vingtaine de partis politiques, d'organisations de la société civile ont appelé à un rassemblement cet après-midi en réaction à l'affaire Aliou Sall, du nom du frère du président Macky Sall. Il aurait touché, d'après une enquête de la BBC, 250 000 dollars de pots de vin dans le cadre de l'attribution de deux concessions pétrolières au géant britannique BP. William Delesseux, vous êtes à Dakar au milieu de cette manifestation. Comment se déroule-t-elle ?
Écoutez, l'État a montré les dents. Il y a un très important dispositif policier ici au cœur de Dakar. Cette manifestation a été quasiment entièrement dispersée à l'heure où je vous parle, car la manifestation a été interdite au dernier moment par les autorités. Une manifestation qui se voulait pacifique, les lacrymogènes ont été tirés très rapidement dès 15h heure locale pour empêcher tout rassemblement. Un activiste a été interpellé du mouvement Y en a marre. C'est un mouvement qui avait pourtant soutenu le président Macky Sall en 2012, mais qui est devenu très critique sur la politique du président Macky Sall. Les manifestants s'en prennent directement à lui. Macky corrompu, on a pu entendre dans le cortège, car c'est le frère de ce président, du président Macky Sall, qui est visé par l'enquête de la BBC, Aliou Sall, qui est toujours directeur de la Caisse des dépôts, qui a refusé de démissionner après la révélation de l'enquête de la BBC, Antoine. Une enquête a été ouverte ce jeudi à propos de la corruption présumée qui donc toucherait le plus haut sommet de l'État dans ses forages pétroliers, qui ne sont pas encore ouvert, le pétrole sera exploité à partir de 2022 au Sénégal. Mais on voit ici en tout cas une grande crispation de l'État lorsque le sujet est évoqué.
Merci à vous William Delesseux en direct de Dakar. L'Organisation internationale de coopération policière Interpol annonce l'arrestation et l'extradition de l'un des responsables présumés des attentats du 21 avril au Sri Lanka. Il s'agit d'un Sri Lankais de 29 ans. Il a été interpellé avec 4 autres suspects dans un pays non identifié du Moyen-Orient à la suite de la publication par Interpol d'une notice rouge. Le leader de l'opposition soudanaise, Sadek al-Mahdi, réclame une enquête internationale sur la répression meurtrière la semaine dernière d'un sit-in des manifestants à Khartoum. Sa demande au niveau national avait été rejetée par les militaires au pouvoir. Le conseil militaire a reconnu pour la première fois hier avoir ordonné la dispersion le 3 juin de ce sit-in de milliers de manifestants qui campaient devant le QG de l'armée. Selon un comité de médecins proche de la contestation, quelques 120 personnes ont été tuées. Les autorités ont parlé, elles, de 61 morts. Aux Pays-Bas, les enquêteurs doivent annoncer la semaine prochaine des poursuites à l'encontre de suspects dans l'affaire du vol MH17 de la Malaysia Airlines. L'avion avait été abattu il y a 5 ans au-dessus de l'Ukraine, dans une région tenue par les séparatistes pro-russes. 298 personnes avaient péri dans la catastrophe. Les procureurs néerlandais ont indiqué que l'équipe conjointe internationale d'enquête présenterait mercredi ses conclusions à la presse et aux familles. Dans l'actualité française, 70 millions d'euros pour éteindre l'incendie aux urgences. Depuis 3 mois, les services sont en grève pour cause de burn-out général. La ministre de la Santé a reçu ce matin les médecins, les infirmiers, les syndicats et les directeurs hospitaliers pour lancer sa mission nationale pour refonder les urgences. Agnès Buzyn a donc tenté de les apaiser avec cette enveloppe supplémentaire. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir.
Est-ce que ces 70 millions d'euros vont suffire ?
Disons que ce n'est pas encore gagné. La ministre a d'abord annoncé une prime de risque, 100 euros net par mois pour les 30 000 agents des urgences, pas les médecins donc, mais les paramédicaux. Et ce n'est pas tout, Agnès Buzyn.
J'ai également annoncé une prime de coopération pour tous les services qui vont s'engager dans des coopérations entre les professionnels, délégations de tâches comme par exemple permettre à des infirmiers de prescrire des examens de radiologie. Et puis j'ai dégagé une enveloppe budgétaire pour cet été de façon à ce que les établissements qui vont sentir des tensions puissent recruter du personnel. C'est une enveloppe de 15 millions d'euros pour cet été.
Le tout donc environ pour 70 millions. En face, les syndicats sont plutôt sceptiques. À propos de cette prime de coopération liée à une tâche charges supplémentaires. Voici la réponse de Sud Santé Sociaux, Olivier Winou.
C'est un retour du travailler plus pour gagner plus. Ce que demandent les agents aujourd'hui, c'est d'être payés à hauteur de ce qu'ils font déjà et pas de devoir faire plus pour être payés. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on aurait voulu discuter avec la ministre et des gens mandatés pour négocier avec nous. C'était pas le cas. On était plutôt dans un truc académique, institutionnel, où les uns et les autres parlaient dans un climat plutôt, c'était costume-cravate, quoi.
C'est bien l'un des reproches des grévistes, invités au milieu d'une cinquantaine de personnalités qui étaient là pour installer une mission nationale à moyen terme. Eux souhaitaient entamer de vraies négociations. Le plan pour les urgences cet été, par exemple, n'est pas suffisant, affirme Patrick Bourdillon de la CGT. Il travaille aussi aux urgences du Vaucluse.
Ces 15 millions, c'est un emplâtre sur une jambe de bois. Colmater d'urgence, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir avoir des effectifs cet été de façon pérenne. Oui, c'est indispensable. Tout lorsque la canicule va arriver, on sait qu'il y aura un afflux dans nos urgences. Mais il n'y a pas que ça. C'est avoir des services aussi qui puissent continuer à rester ouverts. Dans tous les hôpitaux de France, il y a des services, il y a des lits qui ferment l'été tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel pour pouvoir les laisser ouverts. Donc mettre du personnel dans les urgences, ça va solutionner la problématique de l'urgence. Ça ne solutionnera pas la problématique de l'hospitalisation derrière qui fait qu'on n'a pas assez de lits pour pouvoir hospitaliser des patients.
Voilà donc pour quelques réactions à chaud. Les syndicats se voient avec le collectif Interurgence lundi pour décider de la suite à donner au mouvement. Un mouvement qui pour l'instant s'étend. 105 services sont en grève ce vendredi.
Merci à vous Tara Schlegel. Il n'y a pas de problème de santé grave avec la nouvelle formule du Levothyrox mise sur le marché en 2017. C'est la conclusion de l'Agence nationale du médicament dans son rapport définitif. Et pourtant, Claire Flochel, des milliers de patients se sont plaints d'effets secondaires après avoir pris ce nouveau traitement utilisé en cas de problème de la thyroïde. Fatigue extrême, douleurs chroniques, perte de cheveux et même idées suicidaires.
Des mois et des mois que les témoignages se recoupent. Des malades de la thyroïde qui se plaignent de la nouvelle formule du Levothyrox, qui disent leur souffrance. Mais l'agence du médicament explique aujourd'hui qu'il n'y a pas plus de risque qu'avant. Rosemarie Drespira fait partie des médecins qui ont mené cette étude.
Les personnes qui ont pris la nouvelle formule du Levothyrox en 2017 n'ont pas été plus souvent hospitalisées. On n'a pas observé plus de décès parmi ces personnes. Et elles n'ont pas non plus eu plus d'arrêt de travail d'au moins une semaine.
C'est en ce sens-là que le rapport explique qu'il n'y a pas plus de problèmes de santé graves. Les auteurs concèdent toutefois qu'à la suite du passage à la nouvelle formule, les patients ont davantage consulté des médecins, 360 000 consultations supplémentaires. Les malades ont aussi consommé plus de médicaments, comme les benzodiazépines pour aider à dormir ou traiter l'angoisse. Mais Rosemarie Drespira admet aussi que certains symptômes n'ont pas pu être véritablement mesurés.
Comme par exemple la fatigue ou la perte de cheveux. En revanche, on a des éléments par la pharmacovigilance qui montrent qu'il y avait aussi des déclarations pour ce genre de symptômes avant la nouvelle formule.
Des conclusions qui nient la souffrance des patients. Pour maître Christophe Leguevac, l'avocat qui représente plus de 4000 patients, reçoit des appels de colère depuis la sortie du rapport.
Des malades qui ont l'impression qu'on ne veut pas les prendre au sérieux et qu'on continue à nier l'évidence. Et donc, ils maintiennent la pression en nous demandant de lutter contre ce qui est présenté comme une analyse scientifique, mais qui est plutôt une analyse technocratique ou politique.
Maître Leguevac compte riposter avec une autre analyse. La partie civile a demandé à des scientifiques de se pencher sur ce rapport pour l'analyser, le critiquer. Un contre-rapport devrait donc être rendu le mois prochain.
Et le médicament Levothyrox est vendu à plus de 3 300 000 personnes en France, majoritairement des femmes de plus de 60 ans. L'affaire Benalla ressemble décidément à une série à rebondissements avec un nouvel épisode révélé par Mediapart aujourd'hui. Ce que nos confrères appellent le « en même temps » de Benalla, évincé de l'Élysée après l'épisode des violences du 1er mai 2018. Alexandre Benalla a bénéficié, selon le site d'information, d'un important soutien financier de la part d'hommes d'affaires qui opèrent sur le continent africain, au moins 65 000 euros, dont 50 000 de la part de Vincent Miclet, intermédiaire de la France-Afrique. Et en même temps, il touchait des indemnités de Pôle emploi. Une prouesse qui soulève, une fois encore, de nombreuses questions, selon Fabrice Arfi, co-responsable des enquêtes à Mediapart.
Il a légalement le droit à des allocations chômage. Il a touché à peu près entre août 2018 et fin octobre 2018 entre 11 et 12 000 euros. Mais parallèlement, il touche de l'argent que manifestement il ne déclare pas. puisque sur les 65 000 euros qu'il touche, il y a 50 000 euros du fameux intermédiaire Vincent Mécuyer dont il refuse de dire ce que recouvre la somme, et puis il y a 15 000 euros d'un homme d'affaires franco-israélien qui s'appelle Philippe Ababou Solomon, qui est l'homme qui l'a amené dans toute sa tournée africaine à l'automne 2018. Et bien les 15 000 euros qu'il touche, quand M. Benalla est interrogé par sa banque, qui est une banque en ligne étrangère, sur l'origine des fonds, il produit un CDI justifiant ses émoluments. Or, on ne peut pas avoir à la fois un CDI et toucher des indemnités chômage. Donc ça pose des questions, et à chaque fois, la présidence de la République, à chaque fois que nous l'interrogeons, est comme tétanisée, n'a rien à dire, esquive, et c'est incompréhensible. Et plus on cherche, plus on trouve. Et plus on trouve, moins l'Élysée n'a quelque chose à dire, et moins on comprend.
Fabrice Arfi au micro de Rosalie Lafarge. EDF retenue pour la construction et l'exploitation du parc éolien en mer au large de Dunkerque, annonce faite par François de Rugy. C'est le tarif proposé par le groupe français qui a fait la différence, c'est ce qu'a expliqué le ministre de l'écologie. Moins de 50 euros le mégawattheure, un prix garanti pendant 20 ans. Ce parc comprendra 45 éoliennes et il permettra de fournir en électricité 500 000 foyers à partir de 2026. Vous écoutez France Culture. Comme chaque vendredi, on retrouve l'enquête de la cellule Investigation. Bonsoir Cécile Hautefeuille.
Bonsoir.
Le gouvernement doit présenter mardi prochain sa réforme de l'assurance chômage. Mais de votre côté, vous avez enquêté sur le nombre de dossiers que doit suivre chaque agent de Pôle emploi. Et ce que vous avez découvert est assez édifiant.
Oui, alors il faut savoir qu'un agent de Pôle emploi est censé s'occuper d'un nombre donné de demandeurs d'emploi. C'est ce qu'on appelle un portefeuille. Quand Pôle emploi a été créé, l'objectif était d'affecter en moyenne une soixantaine de chômeurs par conseiller. Aujourd'hui, ce chiffre atteint officiellement les 350. Mais dans les faits, ces portefeuilles sont plus proches de 700, voire 1000 demandeurs d'emploi par agent. C'est ce que nous confirme Dominique, conseiller de Pôle emploi, qui a accepté de me parler sous le sceau de l'anonymat.
Il m'est déjà arrivé d'atteindre entre 230 et 250 demandeurs rattachés, alors qu'en réalité, mon portefeuille complet comprenait plus de 700 demandeurs d'emploi. Moi, j'ai déjà vu des chiffres comme ça. J'ai déjà vu des portefeuilles qui ont dépassé 1000 demandeurs, oui. Ils apparaissent peut-être pas dans les chiffres, mais ils existent bien.
Et comment explique-t-on une telle différence entre les chiffres officiels et la réalité?
Il y a deux explications à ça. La première, c'est qu'on ne compte dans ces portefeuilles que les demandeurs d'emploi dits de catégorie A et B. Autrement dit, les chômeurs à 100% ou presque. Toutes les autres catégories, C, D, E, des gens en temps partiel ou en formation, sont invisibles car rangées ailleurs.
Et alors la seconde explication ?
Elle est plus troublante. Certaines personnes, lorsqu'elles s'inscrivent à Pôle emploi, ne sont pas officiellement affectées à un conseiller. Ça crée une sorte de file d'attente virtuelle et ces chômeurs n'apparaissent pas dans les chiffres. C'est ce que m'a expliqué le manager d'une agence de Pôle emploi qui lui aussi a demandé à rester anonyme. Nous avons donc fait lire ses propos.
Un certain nombre de demandeurs d'emploi ne sont pas immédiatement affectés à un portefeuille parce qu'ils viennent de s'inscrire ou qu'ils se sont réinscrits après une courte période de travail. Ces gens-là se retrouvent dans une sorte de sas d'attente. En moyenne, j'ai 300 personnes en attente d'affectation dans mon agence. Mais parfois, il y a des pics à cause du départ d'un agent et dans l'attente de l'embauche d'un CDD. En ce moment, j'ai presque 1000 personnes en attente. Des personnes qui n'apparaissent donc nulle part.
Et ce manager nous a aussi expliqué que c'était une demande de la hiérarchie de faire baisser les chiffres pour ne pas afficher des volumes de portefeuille trop gros.
Alors comment la hiérarchie justifie-t-elle cela ?
La direction générale de Pôle emploi dément avoir donné des consignes pour minimiser l'importance des portefeuilles. Et puis Michaël Oyer, qui est directeur général adjoint de Pôle emploi en charge du réseau, nous explique que de toute façon, la question des portefeuilles, ce n'est pas un sujet.
C'est un indicateur, effectivement, qui a sa pertinence, mais ce n'est qu'un indicateur parmi d'autres. Ce qui est important, c'est de regarder également la qualité de service rendu. Et le plus important, le nombre de retours à l'emploi. Donc c'est là-dessus qu'on doit être jugé, la question de la taille de portefeuille. Ce n'est pas la seule question.
Et pour l'avenir, il faut s'attendre à quoi ?
Probablement une forme de statu quo. D'un côté, la réforme de l'assurance chômage va probablement durcir les règles d'entrée. Ce pourrait être plus de 200 000 personnes qui n'auront plus le droit à être indemnisées. Et en même temps, le gouvernement veut continuer à baisser les effectifs de Pôle emploi. Donc, moins de monde dans les portefeuilles, mais aussi moins d'agents.
Merci à vous, Cécile Hautefeuille. Votre enquête est à retrouver sur notre site franceculture.fr. Demain, attention aux orages sur un quart sud-est. 5 départements du sud-est de la France ont été placés en vigilance orange aux orages. Il s'agit de la Haute-Loire, de la Loire-du-Rhône, de la Drôme et de l'Ardèche. Cette vigilance débute demain à 14h et doit se terminer à 18h. Il y aura de la pluie sur la façade atlantique et en Haute-Normandie. Température maximale médiocre, 15 degrés seulement à Brest, 18 à Nantes, 22 à Paris, 24 à Ajaccio. Je vous rappelle qu'on est en juin. C'est la fin de cette édition préparée avec Jean-François Braun. Prochain journal à 18h, il vous sera présenté par, à 22h, il vous sera présenté par Mathieu Laurent.